Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média, toujours de plus en plus nombreux. Les audiences radio sont tombées hier. Culture Média réalise plus 31% de part d'audience en une vague. Et pour employer le jargon pro, nos 8 quarts d'heure sont en vert, c'est-à-dire en hausse entre 9h et 11h, 8 sur 8, strike. Un immense merci à vous qui nous écoutez et également à l'équipe. Il y a ceux qui sont à l'antenne dont vous entendez la voix et également l'indispensable trio en coulisses, Laure Gignès qui programme, Nicolas Souvent qui réalise et Magali Buteau qui met de l'huile dans les rouages. Merci à eux. À l'antenne, vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain également. Elle va parler jazz, mais d'abord, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences de Louise Bernard, ils sont tous là. Notre indispensable du jour, c'est du jazz et des légumes, et puis un sommaire assez simple. Une femme, un homme, un couple. Notre infomédia autour d'une femme, Marie-Pierre Lannelongue. Elle dirige M, le magazine du Monde, qui publie aujourd'hui un numéro événement, son 500e. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il y a en couverture? Réponse, rien. Vous allez comprendre. Et puis un homme de télévision, remercié par France Télé il y a 2 ans, et il revient pour des best-of le samedi soir sur C8. Et il nous prévient, rien ne sera censuré, ce qui risque de faire grincer quelques dents.
Ah Philippe, t'es sérieux? Me casse pas les roustons avec M, le magazine du Monde. C'est des bobos, c'est à cause d'eux qu'on peut plus rien dire.
Vous avez évidemment reconnu l'imitation, c'était Bertrand Chamerois de notre invité inimitable, Patrick Sébastien. Oui, on a osé. Enfin, un couple. Madame Monsieur a parlé musique. Ils avaient représenté la France à l'Eurovision avec le titre Merci. Ils reviennent pour leur nouveau single Cœurs abîmés. On espère qu'il ne s'agit pas d'eux. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
On a entendu votre voix, vous avez déjà fait non. Bonjour Antoine Janton.
Oui, moi aussi j'ai dit non.
Je sais, encore même plus fort que Louise.
Salut Philippe.
Au sommaire de votre journal des médias.
Samuel Etienne quitte Twitch provisoirement. Un nouveau président pour la chaîne publique Sénat. Une nouvelle plainte pour agression déposée par un journaliste. Et puis un formidable documentaire sur Simone de Beauvoir.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir.
TF1, la suite de Léo Mattei, comme la semaine dernière. Hein. C'était la suite de la saison 8. La moyenne des deux épisodes inédits a attiré 5 360 000 téléspectateurs, 25% de part d'audience. Très très beau score. C'est mieux encore que le lancement la semaine dernière. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ouais. Puis c'est le film d'M6 qui marche très bien. Le Chant du Loup, formidable film si je puis me permettre. Ouais. 3 800 000 téléspectateurs, 17,3% de part d'audience. Très très joli score aussi. Et donc le film de France 3, La Vache, s'en sort pas si mal finalement. 2 150 000 téléspectateurs, 9,3% de part d'audience. Et je vous donne quand même le score catastrophique de Vous avez la parole. 1 038 000 téléspectateurs. Si on veut être exact, 4,5% de part d'audience. C'est tout simplement le pire score de l'émission depuis sa création il y a 2 saisons.
Et je veux dire juste un tout petit mot sur l'épisode de Léo Mattei. On avait reçu Jean-Luc Reichmann ici et il nous avait fait porter notre attention sur ces épisodes-là parce que c'était avec des enfants handicapés. Il avait refusé que ce soit des enfants valides qui jouent les rôles d'enfants handicapés. Il y avait des séquences absolument très très émouvantes où on ne savait pas ce qui allait se passer.
Culture Média.
Pardon pour cette incise, avec vous Antoine Janton, Samuel Etienne qui fait une pause.
Oui, pas à la télévision hein, mais sur Twitch, le journaliste et animateur y proposait tous les matins une revue de presse, la matinée Etienne, attention, jeu de mots. Et c'est lors de ce rendez-vous hier qu'il a annoncé sa décision à ses abonnés.
Là, ça fait 4 mois de stream, hein, quasiment contre rond. 4 mois de stream, ça fait près de 400 000 followers. Waouh, wow, génial. Ça fait plus de 4 millions de vues. Et ça fait 4 mois très intense, ça a été génial, mais ça a été beaucoup de travail, en plus de mes 2 autres jobs, question pour un champion France Info, et de mon 3e qui est encore plus important que tout, c'est de m'occuper de mes petits loulous et de la vie de famille. Et donc je vais faire une petite pause dans le stream de quelques semaines, à minima. Voilà. Donc ce matin, c'est mon dernier stream avant un petit moment. Parce que je sens que j'ai beaucoup donné, que c'était super, mais que je ne suis pas Terminator, que je ne suis pas une machine.
Voilà, il faut dire que Samuel Etienne a un emploi du temps très chargé. Il présente chaque jour la matinale de la chaîne France Info et l'émission Question pour un champion sur France 3. Il est très occupé donc, et il pourrait l'être encore plus. Il y a quelques jours, il a annoncé une nouvelle aventure professionnelle à ses abonnés sur Twitch, sans donner plus de précisions.
Peut-être Télématin, hein, puisqu'on sait que le Parisien a annoncé qu'il y avait un changement à la tête de la présentation, le départ de Laurent Bignolas, donc peut-être que Samuel Etienne...
C'est une bonne...
Exactement, notamment que le Parisien parlait d'un candidat à forte sympathie. Peut-être qu'il s'agissait de Samuel Etienne.
Et de toute façon, il se lève déjà tôt puisqu'il fait la matinale sur France Info, le canal 27.
Ce serait un transfert d'une chaîne à l'autre.
Exactement.
Public Sénat change de président.
Ouais, c'est Christopher Baldelli, ancien directeur de France 2 et ex-patron de RTL, qui va diriger la deuxième chaîne parlementaire, la première CLCP, à partir du 1er juin. Il va remplacer Emmanuel Kessler, dont la candidature à un troisième mandat n'a pas été retenue. Autre candidat malheureux, Damien Fleurot, le chef du service politique de CNews.
Et le focus programme du jour, c'est sur Public Sénat, justement, ou alors hasard de la programmation, c'est un documentaire consacré à Simone de Beauvoir.
Il n'y a jamais de hasard, Philippe. À l'occasion des 35 ans de la disparition de Simone de Beauvoir, un portrait de cette icône du féminisme, une des plus grandes autrices et philosophes françaises, à qui l'on doit entre autres Le Deuxième Sexe, un essai féministe traduit en 121 langues, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Un féminisme très concret, comme l'explique le documentaire extrait.
Elle parle de la charge mentale, de la double journée, des hommes qui ne font rien, ou si peu, à la maison.
Et si les femmes faisaient la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à faire avec elles, eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée.
Elle analyse le machisme ordinaire, la femme objet, réduite à un trophée, à un appareil reproducteur. Dans les pudibondes années 50, elle n'hésite pas à parler des règles, du clitoris. Elle assume sa liberté sexuelle.
C'est-à-dire que moi aussi, j'ai bien aimé ne pas être monogame, finalement.
Mais comment a-t-elle conquis sa liberté? Car elle n'est pas née Beauvoir, elle l'est devenue.
Voilà, comment Simone est-elle devenue Beauvoir? Exactement, c'est ce que raconte ce documentaire à travers les combats qu'elle a menés, des combats encore d'actualité. Et c'est là tout l'intérêt du film. Fabrice Gardel, co-réalisateur du documentaire.
Elle disait, il suffira d'une crise politique, économique ou sociale pour que les droits des femmes soient remis en question. Et je pense qu'on y est quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, quand on voit ce qui se passe en Pologne, le retour sur l'IVG, la crise économique, les femmes sont les premières à trinquer. Et je trouve qu'elle peut nous aider à vivre aujourd'hui, au moment où il faut se battre pour le droit des femmes. Et j'ai voulu la mettre en honneur. Et je suis très attentif au fait de montrer que les combats de Beauvoir sont des combats mondiaux. Elle peut aider les femmes en France, mais elle peut aussi aider les femmes dans le monde arabe ou aux États-Unis.
Alors, le documentaire retrace la vie de Simone de Beauvoir de manière chronologique, avec le regard de plusieurs femmes, dont Leïla Slimani, Titiou Lecoq et Elisabeth Badinter, et aussi et surtout grâce à des archives où on découvre une Simone de Beauvoir bien différente de l'image qu'on peut avoir d'elle.
On la prend souvent pour quelqu'un d'un peu sec et d'un peu dur. En fait, elle était quand même très très rigolote, très humaine. C'était très important pour moi de montrer que Sartre, comme elle, était avant tout des gens très rigolos. Il faut arrêter de penser que les intellectuels sont des gens sinistres, enfermés dans une bibliothèque. Ils picolaient beaucoup, ils dansaient. Elle a couché avec des garçons et des filles. Et elle a eu une vie très très drôle et très sympathique. Moi, mon ambition, c'est de raconter les intellectuels comme des rockstars. Et je pense que Beauvoir est une rockstar comme Camus était une rockstar.
Voilà, et pour accompagner cet esprit rockstar, le montage est très moderne, très pop, portrait d'une femme libre et inspirante. Donc samedi soir sur Public Sénat à 21h, samedi c'est demain, Beauvoir, l'aventure d'être soi de Fabrice Gardel et Mathias Wechsler.
Dans l'actu média également, l'adoption définitive d'un texte dont on a beaucoup parlé à l'automne dernier.
Il s'agit de la proposition de loi dite sécurité globale et plus particulièrement d'un de ses articles, l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Article qui a été réécrit pour le faire sortir du droit de la presse, mais qui continue à susciter la colère des syndicats de journalistes. Le SNJ, par exemple, qui estime que ce texte va créer de l'autocensure dans les rédactions et empêcher les journalistes de faire leur travail. Il a annoncé son intention, avec d'autres organisations, de saisir le Conseil constitutionnel.
Un syndicat agricole condamne le sabotage de la voiture de la journaliste Morgane Large.
Oui, il s'agit de la section bretonne de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle a condamné hier ce qu'elle appelle les actes malveillants dont la journaliste a été victime. Cela dit, la FRSEA Bretagne affirme qu'elle n'en est pas responsable. Morgane Large avait affirmé avoir été désignée comme cible après qu'une photo d'elle avait été publiée sur le compte Twitter de l'organisation agricole. Morgane Large qui a porté plainte avec RSF, c'était mardi.
Autre affaire, autre plainte en Isère.
Oui, plainte déposée là encore par un journaliste d'un hebdomadaire local, le Mémo de l'Isère. Il affirme avoir été agressé par un agriculteur alors qu'il était en reportage. Il prenait une photo de son champ qui est au centre d'un conflit entre partisans et opposants à l'installation d'une piste ULM.
Une image d'espoir, image récompensée par le World Press Photo.
Un prestigieux prix remis hier au Danois Mats Nissen pour une photo prise au Brésil en août dernier. On y voit une dame âgée enlacée par une infirmière, protégée elle par du plastique. C'était la première étreinte en 5 mois pour cette femme de 85 ans, pensionnaire d'une maison de repos à São Paulo. Une image l'image que vous pourrez voir sur Europe1.fr. Les équipes du web vont la mettre en ligne dans les minutes qui viennent. Vous pourrez la retrouver aussi dans la newsletter média d'Europe 1, newsletter gratuite. Il suffit d'aller sur le site pour vous y abonner.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard, merci encore pour ces audiences. Vous n'y êtes pas pour rien. On se retrouve lundi, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue.
Bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à M, le magazine du Monde, l'un des hebdos les plus vendus en France. Il sort son 500e numéro accompagné d'une une très spéciale, je ne vous dis que ça. Nous en parlons avec Marie-Pierre Lannelong, c'est la directrice adjointe des rédactions du Monde. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'un des hebdomadaires les plus vendus en France et les plus gardés. M, le magazine du Monde, est diffusé à près de 400 000 exemplaires chaque semaine. Un chiffre en hausse pour ce journal qui est le supplément week-end du Monde depuis près de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, événement, il publie son 500e numéro. Numéro spécial dans lequel la rédaction a choisi de revenir sur toutes les unes du magazine. Toutes les premières pages, les 499 précédentes, car pour la 500e, il y a une surprise particulièrement étonnante. Bonjour Marie-Pierre Lannelong.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes la directrice adjointe des rédactions du Monde, vous occupez plus spécialement de M, le magazine du Monde, que vous avez lancé ou relancé il y a 10 ans. Avant, il s'appelait Le Monde Magazine et avant cela Le Monde 2. La surprise dont je parlais, c'est qu'il n'y a pas... Dites-moi ce qu'il y a la surprise d'ailleurs.
Il n'y a rien, c'est une page blanche en fait.
Je ne voulais pas la montrer à la caméra, mais voilà, on peut la voir y a sur rien. Europe1.fr, tout est blanc.
Il n'y a rien. Alors attention, c'est pas, on pourrait dire qu'ils n'ont rien fait, ils ont été vraiment particulièrement feignants.
Ouais.
Pas du tout.
Ah, c'est... Avant que vous m'expliquiez, je me suis dit, tiens, c'est une référence musicale
blanc.
Et ça m'a fait penser à ça. Non, vous ne revenez pas du RSS. On va dire ce qu'est ce titre. C'est Back in USSR des Beatles, qui se trouve sur le fameux
album blanc des Beatles. Alors non, c'était pas l'idée. C'était pas l'idée, mais effectivement, un certain nombre de gens, parmi les plus cultivés à la rédaction, ont reconnu que c'était, qu'ils étaient particulièrement fiers d'avoir une référence. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est que, en fait, pour ces 500, ce numéro 500, on s'est dit, on va proposer nos 499 couvertures et rien d'autre, ou quasiment rien d'autre. Mais c'est quand même un exercice pour le moins narcissique, je dirais masturbatoire, et il nous semblait que c'était quand même un peu surplombant de dire on vous envoie nos 500 couvertures, et ben nos 499, et ben la 500e, c'est vous, nos lecteurs, qui allez la faire, qui allez la réaliser. Donc on leur propose à l'intérieur une planche de stickers avec des images, mais la couverture a été n'est pas glacée de façon à ce que vous puissiez aussi écrire, coller quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est à vous, les lecteurs, de faire cette couverture. Donc amusez-vous, c'est vraiment ludique. Envoyez-la sur les réseaux, on publiera toutes les couvertures. Voilà, c'est à vous de jouer la 500e couverture, elle est au lecteur de M.
Alors Jean-Marc, vous êtes quand même la seule patronne du journal à pouvoir placer masturbatoire et surplombant dans la même phrase. Et je dois dire, le papier est ce qu'on appelle matifié, c'est qu'on peut écrire dessus.
On pourra écrire dessus avec des ciseaux, etc. Les vacances scolaires sont en... Il y a les vacances scolaires, amusez-vous avec vos enfants aussi.
Les Beatles n'invitaient pas les gens à monter sur scène avec leur ukulélé. En revanche, laisser ces lecteurs faire leur propre une, c'est pas un geste anodin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous entre du rapport entre le lecteur et l'écriveur, si j'ose dire?
Je pense que, et particulièrement un objet papier aujourd'hui, les lecteurs, c'est vraiment très, très, très important. Et particulièrement dans le cas d'un objet papier, parce qu'on a le choix de ne pas acheter de papier aujourd'hui. Enfin, je veux dire, là, je n'ai pas mon portable avec moi. Mais enfin, l'actualité, elle arrive comme ça tout le temps, et vous le savez, vous le savez vous aussi à la radio. Donc, quand on a des lecteurs, quand ils se déplacent pour aller au kiosque, quand ils sont d'accord et qu'ils ont envie de vivre une expérience papier, comme c'est ce que nous proposons depuis 500 semaines maintenant, ça me semble normal à un moment donné de les prendre par la main et de leur dire on est ensemble en fait, on la vit ensemble cette aventure, on le fait pour vous. Et puis nous, on a depuis le départ aussi, on a une petite connivence avec les lecteurs, parce que chaque semaine on publie le M du lecteur.
Oui.
Donc bon,
c'est
voilà,
ce que je dis
ça c'est le méga M du lecteur, sa couverture.
Racontez ce que c'est pour qui ne connaîtrait pas.
Ça existe depuis le début de M, depuis donc le septembre 2011. C'est nos lecteurs nous envoient tous les jours un M qu'ils voient. Alors ça peut être un vrai M, ça peut être un M qu'on devine, ça peut être par exemple dans ça peut être très poétique parce que ça peut être comme un truc dans le ciel qu'on voit.
Je vais expliquer, c'est-à-dire que c'est une forme qui ressemble aux quatre jambes du M, mais qui n'est pas forcément un M dessiné à dessin comme tel.
Exactement. C'est pour ça. Voilà, ça peut être des nuages qui formeraient un M. Alors parfois on reçoit un M, on se dit c'est vraiment un M. Bon, il y a des petits débats, mais en fait, moi j'aime bien la poésie des propositions. Ouais. Et donc ils nous envoient toutes les semaines leur M. Donc on a ce rapport-là avec nos lecteurs aussi.
Ouais, vous savez qu'on est dans une immense rigueur journalistique ici. Antoine Genton me dit qu'il y a trois jambes au M, il a raison, et il y a quatre barres au M majuscule. Donc on peut faire trois ou quatre. Et juste comme ça pour vous dire, ça fait 15 jours que je suis des scooters qui ont un feu arrière en forme de M. Tout le monde s'en fout, mais voilà, je l'ai dit.
Bah, on attend votre photo.
Ah bah je vais la faire. On pensais qu'elle avait déjà été faite, je vais la faire, je vais l'envoyer.
On l'attend.
On l'a dit, c'est du papier, mais il y a aussi une expérience numérique. Qu'est-ce que vous avez prévu comme déclinaison numérique de ce 500e numéro, Marie-Pierre Lannelongue?
Alors, il y a un petit site dédié où on verra toutes les couvertures et on pourra s'amuser avec des filtres. On pourra classer tous les M par couleur de M, on pourra classer tous les M par animaux, parce qu'il y a eu beaucoup d'animaux. On s'est livré à des statistiques, donc il y a eu beaucoup d'animaux en couverture de M. Il y a eu notamment un panda du zoo de Beauval, qui était une panda en fait, un peu déprimée, parce qu'elle n'avait pas pu être fécondée par Monsieur Panda. Donc ça, c'était voilà, on a eu ça en couverture, c'est assez rigolo. Et il y a eu des chefs d'État, plusieurs fois François Hollande, plusieurs fois Nicolas Sarkozy, deux fois Manuel Valls, qui n'est pas un chef d'État, comme vous le savez, mais bon, la reine d'Angleterre, etc. Donc on pourra s'amuser à faire ça. Ouais. Il faut évidemment envoyer sa couverture avec le hashtag MMagazine500. Et puis vous allez voir tout un tas d'animations sur le compte Instagram de M, où on s'est vraiment amusé avec les couvertures.
Vous aimez bien les statistiques, il y a aussi une pleine page. En 500 couvertures, il y a eu, vous faites le compte, combien d'hommes, combien de femmes, combien de mannequins. Il y a eu deux personnes qui s'embrassent et quatre qui ont posé nus. Un réfrigérateur, mais 16 fruits et légumes, 2 papes et 2 pipes. C'est une information vraiment importante. Mais j'aime bien la manière dont vous avez de traiter la grande histoire, la petite histoire. C'était un peu le début où vous étiez à la fois sérieux, pas sérieux.
Exactement. En fait, au début, on disait qu'il faudrait de la mode dans l'info et de l'info dans la mode. Ce qui n'est pas, vous imaginez bien, au monde, tout à fait le projet. Mais en fait, ce magazine, qui est encore une fois un magazine du monde, et ça, on y tient énormément, on ne s'appelle pas M. On s'appelle M, le magazine du monde. L'idée, c'était de faire un pas de côté sur l'actualité et aussi d'ouvrir un peu, c'est très à la mode, à 360, et de pouvoir parler de mode et de politique, de société et de design, de gastronomie et aussi de toutes les questions de société. On a récemment raconté les filles perdues de Barbès, qui est une histoire, une réalité très dramatique dans les rues de la ville. Et ça, c'était juste après une couverture spéciale mode. Ben, c'est ça, M, en fait, une sorte de grand écart permanent.
Qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Après la forme, le fond, on en parle avec Marie-Pierre Lannelongue. C'est la directrice adjointe des rédactions du Monde. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Pierre Lannelongue, elle est directrice adjointe des rédactions du Monde et c'est elle qui dirige également M, le magazine du Monde, qui fête aujourd'hui, cette semaine, car c'est un hebdo, son 500e numéro avec une 500e une totalement blanche avec rien dessus. On peut la laisser comme telle, immaculée. Il y a aussi des stickers. On peut agrémenter, faire ce qu'on veut. On peut aussi dessiner, on peut l'envoyer. Il y a toute une animation qui va être faite autour des réseaux sociaux. Cette une entièrement blanche. Est-ce que vous l'avez pensé, est-ce que vous l'avez conçu comme un contrepoint à cette une qui avait frappé, une couverture entièrement noire, sortie juste après les attentats commis contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher?
Non, c'est pas un contrepoint, mais c'est vrai qu'on a fait déjà deux fois des unes comme ça monochrome. On a eu cette une après l'hypercacher toute noire, qui était aussi une façon de dire en tuant des dessinateurs, on tue les images en fait, on les fait disparaître. Et puis après les attentats du Bataclan, on avait fait aussi un triptyque qui était un bleu-blanc-rouge, qui était vivre avec, vivre en France et vivre ensemble. Voilà, chacun des trois couleurs portait ce titre-là. Et donc, Oui, on a fait ça parfois, alors qu'on est un journal où, comme vous le savez, l'image, la photo est très importante. Effectivement, parfois c'est monochrome, il n'y a pas d'image, il n'y a que des couleurs. Ouais.
C'est quoi graphiquement une bonne une? Qu'est-ce qui distingue, je sais que la question n'est pas facile, qu'est-ce qui distingue une bonne idée d'une fausse bonne idée?
C'est très difficile. Je crois qu'il y a 500 illustrations. Et puis, de toute manière, vous allez en trouver des formidables et des complètement ratées. Et ça, il y en a quelques-unes parmi les 499. Une belle image, évidemment. Et aussi une belle illustration, parce que nous, on travaille beaucoup avec l'illustration, qui ne demande pas d'explication. Qui, au premier coup d'œil, vous comprenez où on est, vous comprenez ce qu'on veut raconter.
Alors, pour obtenir ce résultat, pour faire simple, c'est souvent très, très compliqué. Comment vous les préparez? Comment vous les concevez, ces unes?
Ben, y a une...
Est-ce que ça vient de vous, d'abord? Ou est-ce que ça vient d'un photographe qui vous apporte une photo? Est-ce que vous-même, en préparant un papier, vous dites « on aimerait une photo comme ceci,
non,
comme cela »
Non, ça vient vraiment de l'équipe. On a vraiment une équipe photo, une équipe graphique très importante. On travaille main dans la main. Le fond et la forme, c'est très important dans ce magazine, dans tous les magazines. On travaille vraiment main dans la main et on travaille en amont sur chaque sujet. Et puis, il n'y a pas de sujet... Enfin, on ne peut pas imaginer un sujet qu'on ne pourrait pas illustrer à la façon de M.
Ouais.
Ça, c'est très, très important. Donc, il faut... M-iser ouais. tous les sujets.
Comment vous avez fait, par exemple, parce que cette une a beaucoup fait parler, comment vous avez M-isé Rocco Siffredi, l'acteur de film X?
Alors, Rocco Siffredi ne se M-ise pas trop, parce que Rocco Siffredi arrive tel qu'en lui-même. Il se déshabille très rapidement à la séance photo et il nous montre...
Je vais montrer à l'image.
Voilà.
On voit Rocco Siffredi nu. D'ailleurs, ce que j'ignorais avant que vous en parliez à l'instant, c'est que c'est une photo faite pour vous. Ce n'est pas une photo d'agence récupérée.
Non, bien sûr, il est venu en studio. Il s'est déshabillé très rapidement et il est arrivé dans son plus simple appareil. On a eu, vous imaginez bien, de gros débats. Nous, on tenait absolument à le montrer nu. Et puis, le directeur de création, Jean-Baptiste Albourdet, à un moment donné, a eu l'idée de coller ce sticker, vous savez, qui est...
Parental Advisory. C'est le sticker qui est sur les groupes de rap et qui avertit les parents et les
Exactement.
Enfants, mais les enfants s'en foutent,
Exactement.
Qu'il y a des paroles avec des gros mots dedans.
Exactement. Bon, ben ça, c'était aussi un truc un peu gros, mais pas des mots. Et à l'intérieur, on voit quand même Rocco Siffredi dans son plus simple appareil. On y tenait. Ça fait grincer pas mal dedans, mais après tout...
À l'intérieur, quand on tourne les pages.
Oui.
Voilà.
Oui.
Les stickers ont été retirés quand on tourne les pages.
Bien sûr. Oui. Rocco, tel qu'en lui-même. Mais après tout, bon, d'abord, ben, c'est une information quand même. Rocco Siffredi... voilà, le sexe de Rocco Siffredi, c'est...
Oui, c'est son métier. Il n'est pas chauffeur de bus.
C'est son métier. Et puis, c'est sa signature, dans une certaine mesure. Et puis, après tout, on voit beaucoup de femmes nues tout le temps. Et on en a vu, nous aussi, en couverture. On avait fait une couverture sur Helmut Newton. Il y avait une femme nue derrière. Personne ne s'était plaint, en fait. Personne n'avait rien dit. Un homme nu... Ça a quand même provoqué beaucoup de réactions. Ben, pourquoi en fait? Pourquoi on voit des seins et des sexes féminins à longueur d'année dans la publicité, dans le cinéma, et un homme nu, ça fait scandale? Bon, on ne le fait pas non plus toutes les semaines, attention.
Autre particularité qui vous caractérise, M, le magazine du Monde, c'est que la une ne propose qu'un seul sujet, un seul thème. Il n'est pas fait non plus mention de la manière dont il va être traité, ce qu'on appelle l'angle, ni des autres sujets abordés dans le magazine. Pourquoi ce choix radical et, je crois, unique dans la presse française?
Alors, parce qu'on a l'extrême chance et l'extrême liberté de ne pas aller tout seul en kiosque. On va abriter par cette grande institution qui est le Monde. Donc, ça nous donne une grande liberté d'abord de traiter tous les sujets et de ne pas être obligé d'utiliser des armes de séduction que sont pour nos confrères hebdomadaires, le spécial maigrir pour les unes, ouais. le spécial immobilier pour les autres, le mal de dos, mal de siècle. On n'est pas obligé de faire ça. Donc, ça nous laisse une grande liberté et la liberté, comme vous le savez, elle ne s'use que si on s'en sert. Et donc, j'allais dire, elle nous oblige en fait. Donc vraiment, raison de plus pour se faire plaisir, chercher les meilleures images, faire varier les sujets, faire varier les plaisirs, avoir toujours une surprise. Moi, j'adore quand les gens me disent « Alors, qu'est-ce que vous faites en couverture cette semaine ?» Et c'est jamais la même chose. Et ça, vraiment, faudrait être idiot pour ne pas se servir de cette liberté, de ce plaisir-là, quand on fait de la presse.
Et je vais même faire un petit compliment. Même quand c'est la même chose, quelque chose qu'on a déjà vu, vous prenez la couverture de M, le magazine du Monde, c'est pas la même chose. Je pense, par exemple, à la une avec Bernard Pivot, qu'on a vu des centaines de milliers de fois en photographie, et là il ressemble à lui-même et à rien d'autre. Vous dites que c'est une raconte l'époque, Marie-Pierre Lannelongue, et donc également l'évolution de la société. À les regarder, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de sujets politiques en première page au début, dans les premières années. Je vais citer Sarkozy, Hollande, Obama. Et puis peu à peu sont arrivés des sujets culturels, économiques, sportifs. Qu'est-ce qui vous a fait changer ?
Et surtout beaucoup la société, moi je dirais surtout beaucoup de société. Qu'est-ce qui nous a fait changer ? C'est l'époque qui a changé. Je trouve que la société, elle est devenue beaucoup plus intéressante que la politique. Que la politique, effectivement, on le sait, elle a changé. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée après l'élection d'Emmanuel Macron, qui est une génération peut-être moins politique, donc moins romanesque, donc qui se prête moins à raconter des histoires, avec aussi un vocabulaire politique, une parole politique beaucoup plus formatée. Mais la société, et notamment depuis toute la révolution MeToo, elle a fait émerger un certain nombre de questions qu'on ne se posait pas il y a 10 ans quand on a démarré. Et donc on a raconté effectivement les violences sexuelles en cuisine, on a raconté le Scum Manifesto qui était ce vieux texte très radical féministe des années 70. Et ma foi, c'est l'air du temps qui nous guide en fait.
Puisqu'on parle de Valérie Solanas, qui a changé également, c'est la manière dont vous parlez des femmes en une. Et de ce point de vue, est-ce qu'il y a des unes que vous regrettez ?
Ah bah oui, bien sûr. On s'est rendu compte en feuilletant l'album qu'au début, et particulièrement avec les femmes politiques, on avait été vraiment, sans s'en rendre compte et sans le vouloir, complètement... je ne sais pas quel mot employer, grossier, grossière. Par exemple, on avait titré pour Cécile Duflot, « Pourquoi est-elle si agaçante ?» On avait titré pour Caroline Fourest, « La laïque qui hystérise le débat ». On avait titré pour, elle le souligne d'ailleurs dans le numéro, pour Aurélie Filippetti, en surtitre, « Fragile, séductrice,
ambitieuse,
romanesque ».
Ambitieuse, romanesque, fragile, séductrice, Aurélie Filippetti. Est-ce que vous faisiez la même chose pour les hommes ?
Non. Sans doute pas. Et donc, effectivement, on n'a rien d'autre à dire que ce ne serait plus possible, et tant mieux. Et heureusement que la société évolue, heureusement que ces nouvelles questions ont émergé qui nous font voir notre façon de pratiquer la une de façon différente.
Vous allez me dire si c'est un regret ou pas, une qui a beaucoup, beaucoup fait parler, un photomontage où on voyait Emmanuel Macron, visage masque fermé, dominer les Champs-Élysées où défilaient des milliers de personnes, une couverture rouge, blanche, noire, qui faisait une référence graphique au style graphique nazi. Vous la regrettez, cette une ?
Alors, référence involontaire, c'est pas qu'on la regrette, c'est une très grande douleur. Parce que, évidemment, elle a choqué les lecteurs à très juste titre. Nous nous sommes excusés auprès d'eux, nous n'avions pas de volonté, c'est une connerie, et dans une carrière de journaliste, vous le savez, ça c'est toujours une douleur de faire des bêtises de cet ordre.
Et je dois dire, et c'est tout à votre honneur, vous n'avez pas éludé cette couverture, et on peut la trouver dans ce numéro 500. Merci beaucoup Marie-Pierre Lannelongue, vous êtes la directrice adjointe des rédactions du Monde, et le numéro, donc M, le magazine du Monde, avec cette couve blanche, pas la peine que je la montre à l'image, puisque c'est du blanc, sera disponible dès après-demain dans l'édition du journal, datée du samedi 17 avril,
dès cet après-midi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous serons avec Patrick Sébastien pour parler de son retour en télévision, mais pas sur le service public, dans l'émission Samedi Sébastien en prime time sur C8. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Bondel.
Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous dans Culture Média. Où êtes-vous ?
Je suis très très souvent en ce moment dans le Lot.
Faut-il vous présenter, figure de la télévision depuis les années 80, Farandole, Carnaval, Sébastien C'est Fou, Le Grand Bluff, 17,5 millions de téléspectateurs en record hors football, Les Années Bonheur et Le Plus Grand Cabaret du Monde, avant d'être remercié par France Télévisions il y a 2 ans, c'était au printemps 2019. Et vous rebondissez, pas qu'un peu, sur C8, la chaîne TNT du groupe Canal+, qui annonce un nouveau repositionnement et au passage, votre arrivée en quelque sorte. À partir de demain, samedi, on va voir des anciens numéros des Années Bonheur et du Plus Grand Cabaret du Monde remonter. Bande annonce.
Le samedi soir, vous le savez, c'est mon truc. Eh bien, C8 vous fait un cadeau. Vous allez pouvoir me retrouver et on va partager ensemble mes meilleurs souvenirs et mes bons moments.
Ah oui, c'est comme ça.
Putain, c'est génial.
On a décidé de vous rediffuser en intégralité des plus grands cabarets du monde et des Années Bonheur qui vous ont enchanté pendant des années.
Oh, ça va, rigole !
Bref, que du bonheur et de la bonne humeur.
Samedi Sébastien, le plus grand cabaret du monde avec Cyril Hanouna. Samedi à 21h05 sur C8.
Alors là, on est à la radio, on n'a que le son, mais pas les images que j'ai vues et qui sont très, très, très spectaculaires. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir un best-of de tous les numéros ou alors des émissions entières avec les mêmes invités du début à la fin?
Voilà, et en fait, l'idée est sympa, c'est-à-dire que moi, alors il y a un truc à préciser tout de suite, mais je me doutais qu'on dirait ça, je ne reviens pas faire l'animateur à la télévision. Je suis un ex-animateur et tout ça, c'est derrière moi. Mais simplement, ces programmes qu'on a interdits aux gens, il y a plein de gens qui aimaient bien ça, ouais. Et on s'est dit, enfin avec ces 8 qui ont été adorables avec moi, qu'on avait passé The Fiesta le soir du 31 décembre, et ça fait une grosse audience, oui. Ils m'ont dit, mais pourquoi on rediffuserait pas intégralement des plus grands cabarets du monde et des années bonheur, parce que ça c'est des émissions qui ont 5-6 ans, elles ont pas vieilli, les numéros sont moi j'ai regardé, j'étais étonné d'ailleurs de voir ces numéros là que ce soit aussi actuel, et puis surtout les gens vont pouvoir voir des gens qui sont serrés les uns contre les autres, qui chantent ensemble. On a l'impression d'être dans une autre époque, tu sais,
oui.
dans un autre monde.
Bien sûr.
Et en fait, on diffuse donc en intégralité le plus grand cabaret du monde. Le premier, c'est celui où Cyril était parrain.
Cyril
et on a juste taillé dans les promos, parce que ça sert à rien de garder les promos du mec qui dit « je passe au Palais des Congrès en 2016 ». Quoi, tu vois.
Évidemment.
Et en même temps, c'est bien parce que ça a rythmé l'émission. Mais le reste est inchangé, on a tout gardé. Alors il y aura d'abord 3 cabarets, une année bonheur, 3 cabarets, une année bonheur. C'est qu'en tout, il y a 6 cabarets et 2 années bonheur.
Ouais.
Et les années bonheur, c'est pareil. C'est des émissions où on voit plus ça, c'est-à-dire un mélange. Il y a Chantal Goya et Maître Gims, quoi.
Alors parmi les invités, il y aura une sacrée liste, rien que pour la première. Vous l'avez dit, l'invité d'honneur, le parrain, c'est Cyril Hanouna. C'était l'émission du 26 juin 2015 qu'on va voir demain samedi. Il y avait aussi Cyril Ferraud, ironie. Étoile montante du service public, ils vont être contents. Et puis aussi Roselyne Bachelot, qui est désormais ministre de la Culture. Ouais. Il y aura qui d'autre dans toutes les émissions?
Dans les parrains, il y a Jamel, Cadmerade, Dujardin, Danny Boone, mes potes, et Chantal Latsou.
Ouais, voilà. Pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui sont présents dans l'émission, qui sont venus dans votre émission, mais qui nous ont quittés depuis? Annie Cordy, Rick Azaray, Michel Delpech. Vous allez les garder? Vous les coupez pas au montage.
Tu sais, dans la première année bonheur qu'on rediffuse, il y a Rose Laurence, qui avait fait une de ses dernières télés. Il y a une table du cabaret, il y a Delpech, il y a mes copains. Quoi.
D'accord. Est-ce que vous allez couper les blagues un peu lestes qui passaient il y a 5-10 ans et qui ne passent plus maintenant, ou est-ce que vous allez tout laisser?
Je vais te dire, on n'en a pas fait tant que ça, nous. Hein. Tu sais, le cabaret, on m'a toujours collé l'étiquette de beauf, grossier, etc. Il n'y a pas ce genre de réflexion dans le cabaret. Jamais. Il n'y a jamais eu ce genre de truc. Il y a eu quelques petits trucs un peu osés, mais légers, quoi, tu vois.
Ouais.
Non, c'est pas...
D'accord.
Il n'y a rien eu ni de sexiste, ni de raciste, ni de... Il n'y a rien eu de tout ça, quoi.
Parmi les chroniqueurs réguliers de l'émission, il y avait Fabien Lecoeuvre, qui est en ce moment au cœur d'une polémique avec la chanteuse Oshi. Est-ce qu'il fera toujours partie des montages?
Bien sûr, parce que ça faisait partie des trucs. Il a dit une énorme connerie, il a dit un truc qu'il fallait absolument pas dire. Moi, j'adore la petite Oshi, en plus, elle est mignonne comme tout. Je partage pas du tout, mais pas une seule seconde, ce qu'a dit Fabien. Mais en même temps, c'est mon pote. Et tu sais, les potes, tu les laisses pas tomber quand ça va mal. Pour lui, ça va très mal aujourd'hui. Il l'a cherché, c'est bien fait pour lui. Mais en même temps, moi, je suis pas du genre à laisser tomber les mecs quand ça va pas bien, quoi. C'est normal.
Un peu avant, il avait fait des confidences sur son rôle auprès de vous, notamment sur son salaire. C'était dans l'émission Jordan Deluxe sur la chaîne Non Stop People. On était le 10 décembre dernier. Il a révélé combien il était payé sur l'émission Les Années Bonheur.
Sur Les Années Bonheur, j'étais payé, je crois, 7 200.
Par mois.
Pas par mois, par émission.
On ah oui
une par mois, donc vous avez un peu
raison. Ah oui, d'accord. Ah oui.
Mais non, j'ai pas, je me suis jamais plaint.
7 200 euros par émission, vous confirmez le chiffre, Patrick Sébastien?
Je sais pas, moi je suis pas dans les comptes, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours très bien payé tous les gens qui ont travaillé pour moi, ce qui est la moindre des choses. J'estime que les gens qui travaillent méritent leur salaire et que c'est tout à fait logique. Tu sais, moi je suis un producteur, je suis un idiot comme producteur.
Ah oui.
C'est-à-dire que j'ai toujours pensé à bien payer les gens qui m'entouraient et pas faire des émissions à l'économie. Il y a plein d'émissions où on ne paye pas les artistes. Moi, un artiste, pour moi, qui travaille, il doit être payé.
On arrive à la partie business, une émission qui coûtait cher, vous l'avez dit. Les droits de l'émission étaient à vous, à votre maison de production Magic TV, ou est-ce que vous avez dû les racheter à France Télévisions?
Ah non, les droits de production, c'est moi qui les ai depuis 30 ans. Et l'émission ne coûtait pas, tu sais, le grand échiquier coûte plus cher que le cabaret, hein.
Ouais.
Et fait trois fois moins d'audience. Mais, non, l'émission, elle coûtait ce que, tu sais, ils nous ont, moi, j'ai eu la Cour des comptes régulièrement tous les ans, on n'a jamais trouvé le moindre défaut que ce soit à mes comptes. Mmh. Et les émissions coûtaient cher parce qu'on voulait mettre ce qu'il fallait dedans, mais elles coûtaient pas si cher que ça. Tu sais, quand des numéros venaient du bout du monde, il faut payer le voyage, il faut payer le fret, il faut payer l'hôtel, il faut payer les cachets des gens. Quand on faisait les années bonheur, on investissait dans les musiciens, dans les danseurs, etc. C'est la moindre des choses si on veut respecter le public. D'ailleurs, ça se voyait sur l'écran. C'est le genre de choses qu'on ne m'a jamais reproché parce que ça se voyait sur l'écran. Aujourd'hui, la télé, elle est beaucoup plus économique. Donc, c'est pour ça que je pense que ça serait très difficile de refaire des émissions comme ça parce que les télés sont dans l'économie.
Question, comment l'émission s'est-elle retrouvée sur C8 ? Réponse juste après une courte pause avec Patrick Sébastien. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Sébastien, animateur, faut-il le présenter ? Non, c'est pas la peine, qu'on va redécouvrir samedi à 21h, demain sur C8, avec une nouvelle émission qui s'appelle Samedi Sébastien. C'est une nouvelle émission sans en être une, puisque c'est un remix de vos émissions précédentes à succès. Justement, la question qu'on se pose, pourquoi avez-vous signé sur C8 ? Comment s'est fait le rapprochement avec eux ? C'est par l'entremise de Cyril Hanouna ?
Non, c'est pas par Cyril, c'est d'autres producteurs qui m'ont proposé de faire un documentaire, un double documentaire qui est passé sur C8, qui a très bien marché. Et à la suite de ça, ils voulaient un truc pour le... Moi, je ne veux plus être animateur. C'est terminé, tout ça. Mais j'ai 4000 séquences, je crois, que je ne sais plus, je peux pas, c'est depuis 30 ans, j'ai des tonnes et des tonnes d'émissions. Et donc, utiliser mon catalogue, oui, ça me fait plaisir, parce que ça me fait un peu d'argent pour ma boîte qui n'a plus d'entrée.
Ouais.
Et puis, j'ai beaucoup d'activités en dehors de ça. Moi, animateur, c'est celui qui était le plus en façade, mais c'est celui qui me demandait le moins de temps, quoi.
Et les documentaires, c'était Sébastien à la télé et C'est fou. Et puis, ouais, il y avait eu la rediffusion de l'émission The Fiesta, 40 ans de scène, qui avait très, très bien marché.
Ça veut dire que peut-être les gens ont envie aussi de voir ça. Je l'espère. Je sais que je croise tous les jours des gens à qui ça manque énormément et qui n'ont pas compris pourquoi ça s'arrêtait.
Bah tiens, ça allait être ma question. Est-ce que vous avez décoléré contre France Télévisions qui vous a remercié de manière plutôt abrupte, on va dire ?
J'ai pas envie de parler de ça, c'est un autre monde. Ces gens-là sont dans un autre monde. J'ai pas envie de parler de ça, c'est leur truc, c'est leur choix.
Dans une interview au magazine Forbes, c'était en octobre 2020, Delphine Ernotte avait révélé que les torts étaient, selon elle, de votre côté. Je vais la citer. L'émission était formidable par certains côtés, mais elle vieillissait un peu. Pas tant les numéros présentés, mais ce qui se passait autour. L'audience baissait fortement. On a donc demandé à Patrick Sébastien d'évoluer, de moderniser le concept, mais il a décliné. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ?
Bien sûr que non, je ne confirme pas. Elle dit ce qu'elle veut. Et puis, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique avec. L'émission, à propos des audiences, l'émission encore plus grand cabaret du monde, le soir du 31 décembre sur TV5, ça fait 70 millions de personnes.
70 millions de téléspectateurs sur TV5 Monde, je précise que ça s'explique, car la chaîne est diffusée dans le monde entier.
Le dernier réveillon qu'on a fait la plus grosse part de marché de la chaîne de l'année, en prime, le samedi. Si on appelle ça une baisse d'audience, moi je veux bien.
Ouais.
Non, l'émission vieillissait certainement. Il y a des trucs qu'on voulait que je fasse et que je refusais de faire, oui, effectivement.
Lesquels, par exemple ?
De moderniser, ce qu'ils appellent moderniser, ben c'est ce qu'ils ont fait avec Spectaculaire. Et ça, je ne voulais pas le faire.
L'émission présentée par Jean-Marc Généreux, voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans Spectaculaire que vous avez refusé de faire ?
Déjà, de lire mes enthousiasmes sur prompteur. Et puis, de noyer les numéros dans une foule de lumières et de machins qui font que on ne met plus le numéro en valeur, que le numéro n'est plus là. Moi, c'est les artistes que je voulais montrer. D'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés. La plupart des numéros qui sont passés dans Spectaculaire étaient passés chez moi. Ils étaient lisibles. Là, ils étaient moins lisibles parce qu'on a voulu faire très moderne, avec beaucoup de lumière, beaucoup de choses, en mettant les artistes au service de la réalisation, au lieu de mettre la réalisation au service des artistes.
Et on a les chiffres. Sur France 2, pour la dernière du plus grand cabaret, vous avez réuni 2,8 millions de téléspectateurs. Et pour la première de Spectaculaire, Jean-Marc Généreux a réuni seulement 2 millions de téléspectateurs. Dernière question à ce sujet, avant de changer de sujet. Justement, vous avez intenté une action en justice contre France Télévisions. Vous demandez 5 millions d'euros. Où en êtes-vous de ce côté-là ?
C'est faux. C'est faux. Ça, c'est des trucs de journalistes qui ont balancé ce chiffre qui est totalement faux. Ah bon. J'ai jamais demandé ça. J'ai jamais demandé ça. Ce que je demande est secret, ça concerne mes avocats, mais j'ai jamais demandé ça. C'est une somme qui a été balancée, je sais pas par qui d'ailleurs.
C'était dans toute la presse télé. Vous dites quand même avoir passé 30 années fabuleuses et 5 années de merde à la télé. Je vais pas vous faire reparler des années de merde. Vous êtes promis de plus jamais faire l'animateur. Et vous avez dit, en revanche, là c'est vraiment passionnant, c'était à TV Mag le 31 décembre dernier, j'ai dû me désintoxiquer de la télévision pendant un an, car c'est une drogue dure, racontez.
Ben évidemment, quand tu as passé toute ta vie à la télévision, c'est pas une drogue dure, mais c'est une accoutumance que tu as l'habitude. Le milieu de la télé ne me manque surtout pas, surtout en ce moment, parce que cette télé n'est plus libre. Aujourd'hui, quand tu amènes un concept, c'est comme un peintre qui amène son tableau dans une galerie à qui on dirait « Ok, votre tableau nous plaît, mais vous allez enlever le rouge, vous allez le remplacer par du bleu, vous allez mettre un chien, vous allez mettre... » Voilà, je peux pas ça, moi je suis un artiste. Ouais. Et la télé d'aujourd'hui, c'est ça, donc elle me convient pas. Je suis pas fait pour elle et elle est pas faite pour moi, mais elle est très bien hein, comme elle est. Hein. Je la critique pas du tout, mais c'est plus mon domaine. Si la télé redevenait libre, si on pouvait faire des choses pour le public, c'est-à-dire tous les publics, publics. Tu as bien vu les Victoires de la musique et les Césars, c'est un entre-soi qui correspond pas du tout à l'ensemble du pays.
Les Victoires de la musique, vous avez trouvé ça comment ?
Bah, je pense que la musique se limite pas à Benjamin Biolay et à la musique urbaine. Il y a plein de choses dans ce pays. Il y a de la country, il y a des piano-bars, il y a des auteurs-compositeurs. C'est de l'entre-soi. Et moi, je préfère l'entre-nous.
Les spectacles, pour l'instant, tout est à l'arrêt à cause de la crise du Covid. Déjà, vous en pensez quoi ? Vous approuvez, vous désapprouvez les mesures de barrières sanitaires ?
Je subis comme tout le monde. Tu sais, moi, je subis comme tout le monde. Je suis vacciné, je fais attention, je me réunis pas, je fais pas de repas, je suis dans mon lot tranquille et j'attends impatiemment que les scènes rouvrent. Parce qu'on a une pièce de théâtre et puis surtout au mois d'octobre, on a la tournée du plus grand cabaret du monde. On va faire le Palais des Sports à Paris. On a 50 dates où il va y avoir 50 artistes sur scène, 80 personnes sur la route. C'est un spectacle magnifique qui va partir en tournée. Ce qu'on ne peut plus faire à la télé, on va aller le faire pour les gens. Et d'ailleurs, les locations marchent très très bien. On attend juste la permission de pouvoir le faire réellement. On l'a reporté déjà. Et normalement, on part fin octobre, oui.
Ouais, je vous pose la question parce que vous alliez très très loin il y a quelques mois. Vous vouliez pousser les gens à la désobéissance contre les mesures de protection.
Non, mais ça, c'est des conneries encore qu'on m'a fait dire. Tu sais, moi, je suis pas un désobéissant. Je dis simplement que, comme tout le monde, comme tous les artistes, on a, il y a 300 supporters du PSG qui ont manifesté leur joie serrée les uns contre les autres l'autre soir. On leur a rien dit et puis on peut pas ouvrir des théâtres. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont dans les métros. Je vais pas répéter ce que tout le monde dit. Et je suis pas du tout pour la désobéissance. Non. Ouais. Moi, j'ai des copains qui sont morts du Covid. J'ai pas du tout envie de l'attraper, j'ai pas du tout envie que les gens qui sont proches de moi l'attrapent et en crèvent.
Voilà. Merci beaucoup Patrick Sébastien. Je rappelle, samedi Sébastien, c'est samedi à 21h sur C8. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.
Merci.
Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un superbe documentaire sur les merveilles de la nature. Et Bertrand Chameroy, autre merveille de la nature, pour son écran de veille avec une superbe bourde. Notre invité, c'est un duo musical, Madame Monsieur. Ils vont nous parler de leur nouveau single Cœurs Abîmés. Puis dans les indispensables, le condiment qui fait sensation et le premier album live de Norah Jones.